Bien, bonsoir à tous. Nous allons commencer cette séance de conseil municipal du 25 janvier. Donc, je commence par faire l'appel. Donc, Isabelle Touzard, présente. Gilles Fusain.
Présent.
Juliette Papreau-Picamard.
Présente.
Gilles Chicot est absent. Séverine Ségismond.
Présente.
Corinne Durand.
Présente.
Mélanie Arnal.
Présente.
Hélène Bonicuel.
Présente.
Dominique Marine.
Présent.
Guillaume Garcin.
Présent.
Laurent Mailloux. Alors, Laurent Mailloux absent a donné pouvoir à moi-même. Donc, à Jean-Claude Mouret.
Présent.
Claudine Moya, Anne, donc absente, a donné pouvoir à Mélanie Arnal. Patrick Ortigoza, donc il a sans doute un peu de retard. Véronique Pomarel.
Présente.
Laurent Pratt a donné pouvoir à Gilles Cousin. Laurence Rousseau, qui aura un peu de retard, mais elle a quand même donné pouvoir en attendant d'arriver à Dominique Baril. Et Bernard Senot, absent, a donné pouvoir à Patrick Ortigoza. C'est ça, hein ?
Oui.
Bon, ben, je fais tourner la feuille de présence et n'oubliez pas de signer quand vous avez le pouvoir. Donc, alors, vous avez reçu l'ordre du jour avec 12 affaires. Je vais vous proposer de retirer deux affaires qui ne sont pas. Il y a eu des éléments nouveaux. Et donc, on les mettra au prochain conseil municipal. Donc, on retire l'affaire numéro 6 sur l'actualisation de la tarification du centre de loisirs de la station scolaire. Et l'affaire numéro 12, la convention mise à disposition du stade de foot à Clermont-Ferrand. Moyennant ces deux modifications, qui est contre l'ordre du jour, qui s'abstient, donc il est adopté à l'unanimité. Merci. Donc il faudrait un secrétaire de séance.
Oui.
Séverine Ségismond, merci. Et donc le procès verbal de séance qui a été envoyé par mail, donc du conseil municipal du 19 octobre, vous avez reçu par mail. Est-ce que vous avez des observations? Alors peut-être, donc je le vois, qui est contre, qui s'abstient, adopté. Peut-être que vous pouvez donner une information sur les nouvelles dispositions, on peut en profiter, sur les procès-verbaux, conseils compte-rendu.
Ah, c'est juste que le compte-rendu en lui-même n'est plus affiché, enfin, le compte-rendu n'existe plus, et il est remplacé par le procès-verbal, donc ça ne change pas grand-chose, ouais, c'est uniquement formel. Donc en gros, le procès-verbal, c'est la liste des délibérations plus les éléments de débat. Et après, on doit faire paraître dans la semaine qui suit le conseil municipal la liste des délibérations.
Donc, liste des délibérations dans la semaine, et puis procès-verbal approuvé au conseil suivant. Donc nous, pour Muriel, ça ne change pas grand-chose, qu'on faisait déjà aussi un peu de temps. Et bah écoutez, je passe au vif du sujet. Donc Séverine pour le point finance.
La première délibération porte sur l'ouverture des crédits avant le vote du budget. Donc le vote du budget se fera fin mars. Et jusque mars, pour avoir la possibilité de payer nos factures, il faut qu'on donne une autorisation pour pouvoir mandater. Sur la partie investissement surtout, on peut mandater à hauteur de 25% des crédits de l'année 2023. Ce qui représente un total de 70 605 euros partagés entre le chapitre 20 et 21 de la section investissement. Donc ça permet de ne pas prendre de retard sur le paiement des factures en investissement jusqu'au vote du budget. Et on est limité à 25% des crédits de l'année dernière.
Voilà. Donc ça, on le vote tous les ans.
On le vote tous les ans, puisqu'il y a
Est-ce qu'il y a des questions? Ça permet de payer les premières factures qu'on a déjà reçues au début d'année. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté. À l'unanimité. Après, pour la demande de subvention, est-ce que... Oui, je le fais. Donc là, la deuxième affaire, donc, ben, on en a déjà beaucoup parlé en réunion, c'est le projet de rénovation énergétique des bâtiments du groupe scolaire et périscolaire. Donc école maternelle, école élémentaire, centre de loisirs, restauration scolaire, médiathèque et Escola, donc local associatif situé dans les anciens appartements des instituteurs. Donc là, on va mettre en place, en œuvre, donc, ce projet très important pour la commune, à la fois pour des objectifs, je dirais, environnementaux, hein, et de confort des enfants et des professionnels, mais aussi parce qu'on a une obligation réglementaire qui s'appelle le décret tertiaire, qui s'applique à tous les bâtiments publics d'une surface de plus, excusez-moi, de plus de 1000 m² de surface de plancher. Et il faut savoir que là, on est à presque 2000 m² de surface de plancher. Donc voilà, on doit respecter, alors en fonction de l'année de construction du bâtiment, etc. C'est un peu compliqué à calculer, mais grosso modo, en résumant, c'est atteindre 40% d'économie d'énergie d'ici 2030, 50% d'ici 2040 et 60% d'ici 2050. Et donc, on a déjà fait mener une étude, un diagnostic, avec déjà des propositions donc, de pré-programmation de travaux, on va dire comme ça, à mener, à la fois pour isoler les bâtiments, pour améliorer le confort d'été avec des brises de soleil, des ventilations, des WMC, etc. À la fois aussi, on en profite pour changer tout l'éclairage et de mettre, installer des systèmes économes, hein, des LED partout, et améliorer l'éclairage. Et aussi, dans le cadre de ce projet, bien entendu, on a la volonté de mettre en place une GTB. Alors, ça devient même obligatoire, une gestion centralisée des bâtiments pour bénéficier de certaines aides. Donc, c'est des logiciels hein, qui permettent de piloter à distance la température dans chacun des bâtiments. Donc, c'est très, très fin. Après, c'est derrière les compétences, parfois, voilà, ça demande de la ressource humaine pour gérer ça, mais ça peut être très opérateur, très efficace. Et surtout, dans le projet aussi, on change le système de chauffage. Notre hypothèse, là, le choix qu'on a fait, c'est de conserver la chaudière gaz plutôt en appoint secours et de mettre le paquet, je veux dire, en termes de chauffage, comme système de chauffage principal, la géothermie, une pompe à chaleur haut. Et pour finir encore, mais ça ne fait pas l'objet de cette demande de subvention, mais à l'occasion des travaux, on installera aussi des panneaux photovoltaïques pour que l'énergie électrique produite soit autoconsommée dans les bâtiments scolaires, mais aussi sur la mairie, c'est ce qu'on appelle l'autoconsommation collective. Donc, le total de tous ces travaux, quand on y ajoute 10% d'imprévus, on est précautionneux maintenant avec les aléas qui peuvent arriver sur les hausses de matériaux en tout genre. Y compris toutes les études, la maîtrise d'œuvre, c'est-à-dire voilà, les professionnels qui vont suivre tous les chantiers. Vous appelez plus toutes les études qui sont encore à mener, diagnostic amiante, de structure, etc. Ça fait élever le projet à 1 300 000 euros. 1 341 000 euros hors taxe exactement. Et 1 600 000 TTC. Donc pour que ce projet puisse être mis en œuvre, il faut qu'on ait des aides importantes. Parce que bien entendu, on ne pourrait jamais prendre ça en charge. Donc on a commencé déjà à consulter de nombreux partenaires financiers et on a commencé à construire un plan de financement prévisionnel qui s'appuie vraiment sur des possibilités de financement connues. Et d'ailleurs, le bureau d'études qui nous accompagne nous a appuyés beaucoup sur le fléchage des aides et aussi Héro Énergie, qu'on remercie beaucoup. L'ALEC, l'Agence locale d'énergie du climat, qu'on remercie beaucoup, parce qu'ils nous ont beaucoup aidés à identifier les aides possibles. Donc, le plan de financement porte forcément sur le montant hors taxe, puisque la TVA, nous allons la payer, mais nous allons la récupérer en grande partie, hein, pas totalement, mais en grande partie dans quelques années. C'est ce qu'on appelle le FCTV, hein. C'est ça, hein, c'est tout. Le fonds de compensation
de la taxe sur la valeur ajoutée.
Voilà. Mais donc c'est une sorte d'avance de trésorerie qu'il faut qu'on fasse quand même. Et on ne peut pas demander de subvention sur la TVA. Donc ça se fait toujours un plan de financement sur le montant hors taxe. Donc on a ciblé pour déjà la maîtrise d'œuvre. Vu qu'on aura un système de chauffage performant notamment, on peut obtenir via les certificats économie d'énergie, là, et à côté, c'est géré par Aéroénergie, 60 000 euros, soit 4% du montant. La géothermie, il y aura une première étude de faisabilité pour faire les sondages, hein, pour voir exactement à quelle profondeur aller, comment organiser les premiers diagnostics montrant que la probabilité que ce soit favorable pour la géothermie est très grande. Et on ne sait jamais, il peut y avoir une particularité du sous-sol qu'on n'imagine pas qui fasse que... Cette étude de faisabilité, elle est financée à hauteur de 70% par l'ADEME, donc on estime 7 000 euros. Ensuite, la géothermie, une fois qu'on installe tout le système, pourra être financée à hauteur de 77 000 euros par l'ADEME. C'est Aéroénergie qui gère ce financement-là. Également par le FEDER, donc là c'est la région qui gère ces financements de l'Europe, à hauteur de 120 000 euros, on estime. On va se tourner vers l'État au travers du fonds vert, et là c'est des financements qui sont à la fois pour l'isolation, donc les travaux dans les bâtiments, et la géothermie. On vise 446 100 euros. Enfin 33%, le fonds vert contribuera à hauteur de 33%, un tiers du projet. Pour l'isolation des bâtiments et les équipements dans les bâtiments aussi, l'éclairage et les autres équipements, Aéroénergie peut nous financer aussi à hauteur de 212 601 euros, 16%. Là, on a eu des bonnes réunions avec Aéroénergie, le directeur notamment, qui nous explique qu'on pourrait prétendre à cette subvention, mais elle nous sera versée en 3 fois, puisque ce sont des financements annuels qu'apporte Aéroénergie et qu'il faut à chaque fois refaire une demande. Donc, si on tombe d'accord, je dirais, il faudra qu'on refasse les demandes de subvention chaque année, d'environ 70 000 euros.
Du coup, chaque année, on prend une délibération pour demander la subvention.
Oui, pour demander la subvention. La région Occitanie, possiblement à hauteur de 150 000 euros. Donc, il resterait pour la commune 20%. Alors, il faut savoir qu'on ne peut pas descendre en dessous. Donc, on essaye de se faire financer au maximum, c'est-à-dire 80% du montant des travaux et études hors taxe. Voilà, donc la délibération, elle vise déjà à adopter le projet, à adopter le plan de financement et à autoriser. Autoriser avec les services à continuer, avec Gilles Chicot, que je remercie beaucoup, il n'est pas là, mais c'est lui qui est le fer de lance un petit peu de tout ce projet qui suit de très très près, et puis dont on peut se féliciter qu'il est présenté comme exemplaire, hein, par les partenaires. Donc vraiment, c'est aussi pour ça qu'ils sont vraiment à nos côtés, et où il y a eu aussi une grosse association des usagers, des bâtiments, les écoles, le centre de loisirs, tout, on a vraiment été associés pour bien cibler les besoins, et donc autorisé à solliciter, à lancer les travaux correspondants, donc ça commence par des études bien entendu, et à solliciter tous les partenaires financiers que j'ai cités pour rechercher les financements.
Peut-être donner le montant de la commune.
La commune, oui, 20%, 268 413 euros. Donc là, sur ce montant de 268 413 euros, on verra au final ce qu'on obtient réellement comme subvention, mais on sera sûrement amené à faire un emprunt. Ce qui est logique, c'est typiquement le genre de projet qui justifie des emprunts, puisque derrière, on va avoir des économies en fonctionnement et des économies d'énergie qu'on va générer. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires sur ce projet ? J'imagine qu'Hélène, aux écoles, elle est satisfaite de ce beau projet.
Oui. Au-delà de l'obligation, c'est vrai que c'est quelque chose qui est intéressant pour la commune.
parce qu'on va aussi réduire une partie de nos frais de fonctionnement. Ça, c'est important, parce que quand on voit les énergies qui augmentent de partout, réduire ce coût, c'est très, très valorisant. Mais au-delà de l'obligation, c'est un vrai intérêt pour tout le monde. Et les enfants ont un peu plus chaud et un peu moins froid.
Alors ça va être compliqué pendant les travaux, mais ils savent que quand même, ils sont contents.
Alors qu'il faut savoir s'il y a de plus en plus de collectivités qui se lancent dans ces travaux-là, donc ça,
il n'y a pas le choix.
De toute façon, il n'y a pas le choix, il faudra le faire.
Mais c'est vertueux en même temps.
De toute façon, voilà. Donc,
c'est un projet sur combien d'années?
Alors, on pourrait commencer les premières études. Alors, l'étude sur la géothermie, par exemple, l'étude de faisabilité, devrait se faire assez vite. Selon Euroénergie, il faudrait les faire assez vite. Et les premières choses qui seraient faites, ce serait peut-être en fin d'année 2024. Parce que maintenant, le temps qu'on finalise tout le plan de financement, les dossiers de subvention. De subventions qu'on va envoyer partout, qu'on soit notifié, qu'on engage le maître d'œuvre. Là, il y a encore un marché pour recruter le maître d'œuvre. Pour lancer tout ça. Et après, l'idée, c'est quand même rapidement de commencer par le système de chauffage, si j'ai bien compris. La GTB, la gestion aussi, qui viendrait assez rapidement, je crois, dans les travaux. Et puis après, il va y avoir toute une organisation des travaux par bâtiment, pour faire tous les changements de menuiserie, les isolations par l'extérieur souvent, l'isolation de plafond, refaire les canalisations pour les radiateurs et tout, changer les radiateurs, parce que là on va être sur des radiateurs basse température. Donc ça va s'échelonner beaucoup sur 2025, et on pense qu'il y aura encore des petits travaux fin 2026. Et le gros, ça va être 2025. C'est vrai qu'on va être en site occupé, donc là il va y avoir
une gestion d'espace.
Ah, ouais. Mais bon, il commence à y avoir pas mal d'expérience sur la métropole au niveau des maîtres d'œuvre et tout, de la gestion de rénovation d'écoles, des plus grosses que la nôtre, donc on commence à savoir comment phaser les travaux, on va dire, et organiser ça.
On a quand même des scolas avec deux salles, ça peut toujours
servir
au cas où on est en train.
Oui. On peut mobiliser aussi une salle, la salle Marius par exemple, qui pourrait être exceptionnellement mobilisée. Elle est plus grande que les salles et les scolas, ça peut se faire. Hein. Ça s'est fait dans des tas de collectivités où ils mobilisent tous les locaux pour. Bien, est-ce qu'il y a d'autres questions? Du coup, je mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité, merci. Alors, je te redonne la main, Céline, pour le.
Oui. Alors, la prochaine délibération, c'est l'adhésion à un groupement de commandes pour l'achat d'énergie, de fournitures, services en matière d'efficacité et d'exploitation énergétique. Donc, on adhérait déjà à un groupement de commandes. Hein. Là, c'est une nouvelle adhésion à un nouveau groupement. Du coup, l'idée, en fait, c'est d'adhérer à ce groupement pour mutualiser et arriver à avoir des prix compétitifs sur l'énergie, tout ce qui est fourniture, service, voilà. Donc, c'est le syndicat départemental d'énergie de l'Hérault qui coordonne ce groupement. Et donc l'objet de la délibération, donc, c'est valider l'adhésion de la commune au groupement de commandes, autoriser le maire à signer la convention, faire acte de candidature au marché d'énergie, parce que derrière le groupement, il y aura toute une procédure pour mettre en concurrence les différents distributeurs pour avoir les meilleurs tarifs. Autoriser le coordinateur à accéder aux informations qui sont relatives à nos points de livraison. Des fois, ça permet de faire des économies sur des abonnements. Également autoriser le coordinateur à signer tous les actes nécessaires à la passation et à l'exécution du marché. approuver la participation financière aux frais de fonctionnement du groupement, notamment pour les marchés d'énergie. S'engager à exécuter avec là où les entreprises reconnues et les marchés, accord cadre, marchés subséquents dont la commune est partie prenante. Et régler les sommes dues au titre des marchés à partir des marchés subséquents. Voilà, l'idée c'est d'avoir les meilleurs tarifs.
Donc c'est toujours Herbo Énergie hein, qui coordonne ce groupement de commandes. Et là, c'est un groupement de commandes auquel adhère quasiment toutes les communes du département. Bah, la métropole aussi. Hein.
Même la métropole LR, après, l'idée c'est de mettre en concurrence.
Est-ce qu'il y a des questions?
Oui, est-ce qu'on connaît les. La participation financière aux frais de fonctionnement, le pourcentage, est-ce qu'on l'a ou on l'a pas?
J'ai une bonne tête. Et puis comme c'est un nouveau mouvement de commande.
Oui, mais comme l'autre est dissous avant, oui. Normalement c'est plutôt celui-là qui reprend à peu près les mêmes. Enfin, j'espère.
Ouais,
j'espère qu'ils n'ont pas augmenté.
Ça reprend un peu les mêmes. les mêmes
D'accord.
L'adhésion au groupement de commandes, ben, en fait, tu payes, si tu veux, le coordinateur s'occupe de faire le travail à notre place.
Tu payes.
Donc, tu payes un pourcentage.
Oui, c'est
une question. Oui,
mais c'est tout, c'est de savoir.
C'est
une question. Mais
après, tout au long du process, les collectivités ont les informations de ce qu'ils veulent, les tarifs. Il y a toujours des comptes rendus, en fait, sur les adhésions. Oui, tout à fait. Et puis même sur le choix de l'énergie, enfin de mémoire, hein, quand j'avais pratiqué, par exemple, il y avait eu un retour sur la collectivité pour savoir si on faisait le choix soit de partir sur l'énergie traditionnelle ou plus l'énergie verte. Et du coup, bah, on avait tous les tarifs en fait, qui étaient annoncés. Après, c'était une décision politique. Voilà.
Est-ce qu'il y a d'autres questions? Merci. Il y a un autre groupement de commandes, c'est le véhicule électrique. Vous avez toujours les roues énergie.
C'est toujours les roues énergie, tout à fait. Alors là, c'est un groupement de commandes pour les véhicules électriques et les ventes de charge privée. C'est au cas où on souhaiterait adhérer tout simplement nous acheter des véhicules électriques. Donc pareil, on propose d'adhérer à un groupement de commandes pour avoir les meilleurs tarifs sur l'achat des véhicules électriques. Donc l'adhésion n'engage à rien, c'est si un jour on envisageait de le faire, ben, on aurait la possibilité d'accéder à les offres de Hero Energy pour négocier. Donc c'est pareil, hein, la délibération c'est prendre acte de la dissolution des précédents groupements de commande, hein, valider la nouvelle adhésion. Donc c'est un groupement de commande pour acquisition de véhicules neufs et ou d'occasion électrique, hybride, hybride rechargeable et pour la mise en place d'un service comprenant la création, l'entretien et l'exploitation des infrastructures de charge nécessaires à l'usage des véhicules IRV, électriques, hybrides rechargeables sur le domaine privé des collectivités et leur établissement public. Donc pareil, Madame le maire a signé la convention constitutive du groupement, à faire acte de candidature au marché et autorise le coordinateur à signer tous les actes nécessaires à la passation et à l'exécution des marchés. Approuver la participation aux frais de fonctionnement du groupement. Donc voilà, si on a là l'utilité.
Voilà, donc c'est pas une obligation d'y aller, mais ça nous donne un cadre au moment venu, si jamais, c'est ce qu'on a, notre parc de véhicules est quand même un peu vieillissant, donc, oui Gilles.
Question, la participation financière aux frais de fonctionnement du groupement, on ne les paye pas si on utilise
comme
on adhère, est-ce qu'on paye quand même, ou on ne paye que quand on utilise?
Non, tu ne payes pas, tu la payes que si tu utilises.
Voilà, oui. Ça serait bête d'avoir des frais de fonctionnement
non,
si on n'utilise pas.
Si tu utilises.
Excusez-moi.
C'est comme pour le centre de gestion. Hein. Quand on adhère au centre de gestion, il y a des services optionnels et en fait, on ne paye que si on
déclenche l'option. Ouais. Ok.
Bon, donc dans ce cas-là, je mets au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc la vision du commande est également acceptée à l'unanimité. Alors maintenant, je donne la parole à Hélène Bonnet-Grel pour l'actualisation du règlement intérieur et des conditions d'accueil au centre de loisirs.
Voilà. Alors, je ne dirai pas tout le règlement intérieur.
Mais après concertation avec Amélie, Camille, on a pensé faire quelques modifications au règlement intérieur. Alors, notamment par rapport, parce qu'il y a, il se trouve qu'il y a beaucoup de problèmes depuis l'année dernière avec un enfant particulièrement violent. Et donc, il avait été exclu, il n'a pas été exclu, mais Amélie m'avait demandé s'il était possible de l'exclure éventuellement 3 jours si c'était trop compliqué. Que vraiment c'est un enfant qui agresse physiquement les autres enfants. Et donc il a été rajouté dans le nouveau règlement qu'une exclusion était possible. Voilà. Alors que ce n'était pas le cas avant. Donc c'est en cas de comportement grave et ou de violation répétée des règles. Donc il y a d'abord l'envoi d'un courrier aux parents prévenant d'une menace d'exclusion. Et si le comportement de l'enfant ne s'améliore pas, il peut y avoir une exclusion d'une semaine. Donc de tous les services périscolaires et extrascolaires. Donc étant considérés comme des comportements graves, les actes de violence verbale ou physique auprès des autres enfants ou des adultes, le harcèlement, des actes d'humiliation répétés et la mise en danger d'autrui. Et si, dans le cas où les parents ne respecteraient pas non plus le règlement, le centre de loisirs se réserve le droit de réexaminer l'inscription de l'enfant au centre de loisirs. Voilà, sinon il n'y avait pas d'autres modifications particulières. À part que les cartes Pokémon sont déconseillées.
C'est d'actualité. C'est d'actualité.
Dans l'école aussi, ils ont rajouté ça. Parce qu'en fait, les cartes Pokémon, c'est spécial. Ça crée de nombreux problèmes entre les enfants. Beaucoup de disputes et surtout des arnaques. Parce que les cartes Pokémon, ça coûte cher en fait. Il y a des cartes qui valent des centaines d'euros. Il y a des cartes qui valent même des milliers d'euros.
Ah bon?
Oui. Et sur le marché de la carte Pokémon, c'est voilà. Et donc il y a des grands, par exemple, qui arnaquaient des petits en leur échangeant des cartes sans valeur contre une carte très chère. Donc en fait, c'est un objet de valeur finalement. Et donc
c'est la loi.
C'est fortement déconseillé. C'est pas absolument interdit, mais c'est fortement déconseillé. Et bon, en pratique, les enfants. Ils en avaient plus à l'école. Maintenant, ils rejouent au kit, c'est bon.
Voilà, donc c'est l'adaptation du règlement intérieur due à, voilà, à des cas de figure auxquels on n'était pas vraiment du tout habitués. Voilà. Malheureusement, ça peut arriver. Et on espère qu'on aura. Toujours pareil, un règlement, c'est fait pour au cas où des situations vraiment. Critiques se présentent, heureusement elles ne sont pas fréquentes, hein. Vraiment, on peut s'en satisfaire quand même. Mais il y a. Voilà. Il y avait un vide en fait dans le règlement intérieur à ce sujet.
C'est vrai qu'à un moment elles étaient un peu bloquées.
Parce que là il s'agit aussi quelque part de mettre en sécurité d'autres enfants.
Ah oui, oui, c'est pas le but. Le but n'est pas tellement. Bon, ben, c'est bon, il y a une partie politique de. Mais c'est plutôt la mise en la protection des autres enfants.
Est-ce qu'il y a des questions sur le règlement intérieur? Je mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Merci. Alors maintenant, ah oui, la convention de collaborateurs occasionnels bénévoles, nos études surveillées. Hélène, toujours.
Oui, alors. Donc il a été, comme on voulait remettre en place les études surveillées au sein de l'école sur le temps périscolaire, et qu'il n'y avait plus d'instituteurs qui étaient volontaires pour le faire, et qu'on ne pensait pas non plus que c'était aux animateurs de le faire, comme ça a été un moment. On a que des bénévoles, enfin des personnes du village étaient intéressées pour faire ce travail de manière bénévole. Du coup, donc on a élaboré une convention collaborateur occasionnelle bénévole, une sorte de contrat entre le bénévole et la mairie. Donc, notamment, qui fixe un petit peu les règles de l'encadrement de cette étude surveillée, qui est encadrée de toute façon par Madame Sandrine Colacani, la directrice du centre de loisirs. Voilà, donc il y a plusieurs articles hein, qui pour s'assurer de la, du respect des règles, de la exigence de probité pour les personnes qui ont un délinquant mineur. Donc on est dans l'obligation de vérifier le casier judiciaire des personnes. Voilà. Donc cette nouvelle convention collaborateur occasionnelle permet de mettre un document juridique en fait sur quelque chose qui jusque-là était un peu
informel.
C'est bien. Et là, ça se passe bien avec les deux personnes bénévoles.
Il y a deux bénévoles pour l'instant.
Là, il y a deux personnes bénévoles qui s'occupent des surveillés et ça se passe bien.
Ça met un cadre, parce que ces personnes, du coup, elles ont un statut, même si elles sont bénévoles, en étant en présence avec des enfants, dans nos locaux. C'est un petit peu comme les bénévoles du CCFF, donc c'est pas le même. Mais au moins, ils sont dans le cadre d'un statut. Quoi. Je pense qu'au niveau assurance, ils sont découverts, enfin, il y a tout ça. Ouais. Comme vous serez un agent, ceux qui sont bénévoles. Et puis on peut vraiment remercier les bénévoles qui font ce travail, parce que c'est appréciable. Hein. Je sais qu'il y a des parents qui doivent être contents d'avoir ce service-là. Quoi.
Ah oui, oui, ouais. Elles font bien.
Des questions ? Des observations ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Adopté à l'unanimité. Merci. Le tarif du séjour de ski, comme tous les ans, dans le cadre de l'Interco.
Voilà, donc alors il est rappelé, on rappelle donc pour des raisons de développement durable, la commune ne subventionne plus les séjours de ski. Par contre, elle met gratuitement à disposition un animateur participant à l'encadrement du séjour organisé par l'intercommunalité en 2024. Le tarif de ce séjour est fixé à 580 € et 8 places sont disponibles pour les jeunes urbivores.
Voilà, donc il faut voter ce tarif et nous on passe. Comme on le fait tous les ans. Donc, depuis l'année dernière, avant, vous savez, on avait des subventions en plus sur ce tarif en fonction des revenus. Là, il n'y a plus ce système-là. Par contre, il y a une aide quand même, dans le sens où on met à disposition l'animateur.
Du coup, donc, il faut la transférer. Il n'y a jamais d'inscrit.
Dernière fois qu'on a parlé, il y a 4 inscrits.
4 inscrits.
Mais ça a peut-être augmenté.
Sur 8 places.
La moitié.
Alors, l'Interco organise ses séjours de ski, mais organise aussi des séjours en été.
Oui.
Ils sont là, des séjours plus à la campagne, on va dire. C'est ça, hein. Est-ce qu'il y a des questions, des observations ? On voit qui est contre, qui s'abstient, adopté à l'unanimité. Alors, on passe aux ressources humaines. Ah oui, alors il y avait l'affaire sur les tarifs hein, qu'on a reporté. Donc là, peut-être passer au tableau des effectifs. Donc on avait déjà délibéré au dernier conseil. Donc on continue, il y a encore des modifications à apporter. Donc il y a 3 modifications au tableau des emplois pour les nécessités de service. Donc il y a un emploi d'adjoint technique qui est transformé en adjoint technique principal seconde classe. Donc c'est la progression d'un agent.
On transforme, on supprime un emploi d'attaché territorial et on le transforme en un emploi d'attaché principal. Et on félicite en même temps Renaud d'avoir eu le concours d'attaché principal. Donc là, c'est... il ne faut pas le cacher, c'est le poste de GS. Et on crée un emploi d'adjoint administratif. Donc cet emploi d'adjoint administratif, en fait, c'est un deuxième poste d'emploi d'adjoint administratif à l'accueil. Parce qu'il y a déjà officiellement, enfin, il y a déjà un poste hein, de fonctionnaire créé, mais l'agent qui occupe ce poste est en congé longue maladie. C'est comme ça qu'on dit ? Longue durée ?
Pas encore, mais bientôt.
Pas encore, mais et on a besoin de quelqu'un à l'accueil. Et étant donné que l'autre personne, les perspectives de retraite ne sont pas lointaines, on peut tout à fait créer un poste. Votre poste et maintenant, et l'autre poste qui est occupé par quelqu'un qui sera prochainement en retraite pourra être supprimé. Je ne sais pas si je suis claire. Donc, c'est une modification, c'est une augmentation ponctuelle, je dirais, des effectifs liés à la conjoncture. Et ça permet de surtout de pérenniser un agent qui est déjà là et qui porte entière satisfaction. Du coup, on a un résumé des nombres de postes par filière et par grade qui est résumé là, dans le tableau.
Donc,
c'est le contrat actuel.
Il n'y a pas de poste. Et puis là, les postes, c'est les postes pourvus.
C'est les postes ouverts.
Ouverts.
Pas forcément pourvus.
Pas forcément pourvus.
Son vote peut-être.
Ouais. Est-ce que c'est des questions sur ce sujet? Je mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Merci. Et toujours concernant les ressources humaines, c'est. Dans un mot, on dit les richesses humaines. Je trouve que c'est bien. Oui, ça considère les personnes pas uniquement comme des ressources, mais aussi comme richesses. Ça, c'est ça. Tout ça, ça concerne tout le monde.
Oui, bien sûr.
Alors, donc là, c'est sur le recrutement des vacataires. Donc, on a déjà instauré par délibération des vacations, notamment pour le musée. Et là, l'objectif, c'est d'instaurer la possibilité de recruter des vacataires également au service technique, au service entretien, au service enfance et au service administratif. Et pour l'année 2024, de fixer le taux brut à 14 euros par heure. Donc on est au-delà du SMIC. Hein. Le SMIC, il est à 11 euros et quelque chose. Brut. Donc l'idée, c'est de pouvoir, avec ces vacations, faire des remplacements ponctuels, en fait, dans ces différents services sur des courtes durées. Et de donner de la souplesse, un petit peu, comme ça, à la gestion de ces remplacements. Et cette offre de vacation, de contrat de vacation, peut intéresser potentiellement des personnes qui ont besoin d'un appoint, de salaire, quoi, à compter d'une autre activité. Donc là, c'est rappelé, hein, un vacataire, il doit être recruté pour exécuter un acte déterminé, de façon discontinue dans le temps, répondant à un besoin ponctuel, avec une rémunération qui est, du coup, attachée à l'acte. Donc ça peut être une vacation de 5h, 10h, 15h, c'est ça, hein.
Un renfort.
Est-ce qu'il y a des questions? Oui, Hélène.
Il y a une personne qui a connu un peu tout ça, qui m'a parlé du fait que ce serait plus avantageux d'embaucher des auto-entrepreneurs dans tous ces domaines-là. Apparemment, maintenant, il y a des auto-entrepreneurs en animation, des auto-entrepreneurs en...
Pas dans le public, en agence.
Ça, c'est
plus recruté
dans le public, mais c'est pas vraiment du
recrutement.
Tu les embauches pas,
c'est comme des vacations. C'est ça.
Ouais, c'est ça.
Mais après, moi, je trouve que c'est un peu des trucs.
C'est limite. Hein. Enfin, c'est très limite. Hein.
C'est pas le même tarif.
Au niveau du droit du
travail. Surtout sur des postes comme ça. C'est pas une prestation de service. Mmh. Je viens faire, je sais pas, une affiche, un peu de communication. Là, t'as vraiment une prestation.
Une mission.
Oui. Et une commande derrière. Que là, c'est pas. Pour moi, c'est pas pareil.
La vacation, c'est plus
ponctuel. Sur la prestation de service, normalement, en partie. C'est plus la partie intellectuelle, c'est une prestation intellectuelle. Là, on est sur une prestation technique. Donc, manuelle, ce n'est pas une prestation de service. Donc, c'est pour ça que c'est pas possible. Par contre, ça serait effectivement sur...
Enfin, tu as quand même des prestations techniques, genre élagage, genre tout ça, c'est technique et c'est des auto-entrepreneurs.
Il y a une expertise dans un domaine quand même.
Oui, il y a une expertise.
Oui, mais justement, le statut d'auto-entrepreneur, il y a de plus en plus de gens
Mais c'est plus cher du coup. Parce que de fait, il y a des taxes, les taxes qui sont affichées sont. Que sur les vacances.
On n'aura pas de charge patronale.
Là, il n'y en a pas.
C'est l'entreprise qui va nous faire une facture et nous, on va payer.
C'est l'entreprise qui porte les charges.
Et c'est l'entreprise qui déclare tous les trimestres.
C'est les tarifs
qu'elle a fait et elle paye sur son chiffre.
Et qu'elle ne doit pas dépasser.
C'est
80, mais.
On note quand même Hélène, pourquoi pas.
Il n'y a pas de question de TVA non plus.
C'est pas l'idée qu'il n'y a pas de moi. Moi, j'y connais rien tout ça. Mais c'est quelqu'un de très branché là-dessus et qui a l'air de se connaître vachement qui m'a parlé de ça.
C'est quoi ?
Bon.
Donc pour la mise en place de ces vacations et du taux horaire qui est proposé pour 2024, du 1er février au 31 décembre 2024, qui est de 14 euros brut, qui est contre, qui s'abstient, adopté à l'unanimité, merci. Alors on arrive au dernier point, puisque après on en a fini. C'est le contrat de prêt à l'usage d'une parcelle communale à l'association des chasseurs propriétaires. Dominique.
Oui, c'est donc, il s'agit de la parcelle qui est située en contrebas des services techniques. Alors, l'association des chasseurs et propriétaires de Neuville de Montpellier est chargée par la Fédération départementale des chasseurs de l'Hérault de la gestion cynégétique sur les terrains de la commune de Neuville de Montpellier depuis 1931. Cette parcelle avait déjà fait l'objet d'un premier contrat de mise à disposition signé le 7 janvier 2008. Entre la mairie de Neuville de Montpellier et l'association des chasseurs de sangliers de Neuville de Montpellier. La mairie de Neuville de Montpellier a dénoncé ce contrat de mise à disposition le 25 novembre 2022. Un contrat de prêt à usage de cette parcelle a été signé ensuite à titre transitoire le 17 janvier 2023 avec l'association des chasseurs et propriétaires de Neuville de Montpellier, représentée par son président Adrien Coste. Ce projet de contrat de pré-usage qui est proposé, établi pour une durée d'un an renouvelable, par tacite reconduction, et remplace le contrat d'usage signé le 17 janvier 2023. Donc, il vous est proposé de délibérer sur ce nouveau contrat d'usage, qui est une prolongation. Du travail en commun qui est conduit par la mairie de Montpellier et les chasseurs et propriétaires de Neuville de Montpellier.
Donc un contrat de prêt de un an reconduit.
Voilà. Donc la surface de la parcelle de 3500 m² qui sera constitutif de ce prêt usage.
Du coup, est-ce qu'il y a des observations, des questions? Donc on met aux voix, qui est contre, qui s'abstient, adopté à l'unanimité. Merci beaucoup. Le conseil municipal arrive à son terme, il est terminé. Je vous remercie. Je vous souhaite une bonne soirée.